BFM Politique. Benjamin Duhamel.
Michel-Édouard Leclerc, invité de BFM Politique, et je signale à tous ceux qui nous regardent chez eux à la maison que vous pouvez interpeller Michel-Édouard Leclerc directement en flashant le QR code qui apparaît à la droite de l'écran, et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Michel-Édouard Leclerc, pendant plusieurs mois, vous êtes venu sur BFM TV, parfois dans BFM Politique, pour parler d'une inflation qui battait des records. Les chiffres aujourd'hui sont tout autres. La hausse des prix en février est passée sous la barre des 3%. En janvier, vous vouliez, je cite, « casser la gueule à l'inflation ». C'est bon, elle est à terre, l'inflation ?
En tout cas, je pense qu'on a gagné, notre coup. En privé, tout à l'heure, on parlait de boxe. Métaphore de quelqu'un qui a la présidence de la République en fait.
Évoquer les photos du président de la République.
Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on est allé boxer auprès des sociétés multinationales pour ramener une inflation au moindre. Je pense que 2024, toute chose égale par ailleurs, on sera à 2 à 3 points d'inflation en général. Et je pense que dans les hyper, on aura cassé ce moment hyper spéculatif qui a tapé dans le portefeuille des Français, où on a eu pendant 2 ans 21%
d'inflation. Donc ça, cette époque-là, elle est révolue, c'est terminé.
Voilà, les commandes qui se font actuellement chez Leclerc, Carrefour, Intermarché, Lidl, on a vu des publicités Aldi, aujourd'hui, se font à des nouveaux tarifs qui vont... Il y a une petite inflation, parce que tout le monde a des coûts à refiler, des coûts d'énergie, des coûts de transport, mais c'est beaucoup plus modéré, quoi.
Sur un horizon
Un an.
Ah non,
parce que en France, on a cette particularité unique au monde, c'est qu'on négocie pour un an.
Oui.
Alors à l'intérieur, quand c'est bien fait, on peut avoir des clauses de révision de prix. Souvent, les consommateurs nous disent « Ah, mais le marché du brut a descendu, le marché du cacao a descendu, les prix ne descendent pas ». En fait, c'est balisé annuellement en France. Probablement pour des praticités de contrôle, c'est une idée ça très administrative.
Oui.
Dans la réalité, tout le reste, tout ce qui est pas français et qu'on achète dans le monde, on l'achète comme ça, quoi, sans arrêt. Les cours fluctuent et on essaye de se battre pour le moins cher.
Et on va revenir dans un instant sur la question de ces négociations, mais juste avant, Amandine, toujours sur l'inflation.
Oui, puisque vous disiez l'inflation à 2-3% pour cette année, donc ça veut dire que ça va augmenter moins vite. Est-ce que ça peut vouloir dire, pour les Français qui nous regardent, qu'il va quand même y avoir des baisses de prix sur
certains produits ?
Alors
il va y avoir des poches de baisse, je ne sais pas utiliser la bonne expression.
Ouais, dans certains secteurs.
Par exemple, dans la concurrence qu'on se livre entre Leclerc, Carrefour, Auchan, évidemment, on va aussi prendre sur nos marges. Ce n'est pas que les conditions d'achat qui font les prix. C'est aussi, on prend sur nos marges et on baisse tel ou tel secteur. Alors ça, je ne vais pas vous l'annoncer avant, parce qu'ils vont se le prendre dans le nez d'ici 15 jours ou 3 semaines. Donc, je ne vais pas en faire la publicité.
C'est-à-dire que vous préparez d'ores et déjà des coûts pour que les prix baissent encore plus que les...
Exactement. Moi je suis, n'oubliez pas, je ne suis pas propriétaire des centres Leclerc. C'est une marque collective qui est pilotée par une coopérative de commerçants indépendants. Donc, ils aiment ça, c'est leur magasin. Ils sont en local, ils font leur prix. Mais là, aujourd'hui, à partir de conditions d'achat, mais aussi en investissement, quelquefois jusqu'à collectivement 1 milliard en argent, en espèces, ils les mettent en baisse de marge.
Et ça donc, va concerner des dizaines de produits, des centaines de produits.
Alors, ce qu'on peut dire quand même de manière assez sûre, parce qu'on les achète 6 mois à l'avance, c'est que tout ce qui concerne les arts de la table, ce qui concerne le textile, ce qui concerne tout ce qui est sur le marché international, y compris les jouets de Noël de l'année prochaine. Comme les Chinois vendent moins, que la croissance est plus faible en Asie et que le coût du transport pour le moment n'est pas trop prohibitif, je pense que là, il y aura de la baisse. Vous voyez, pas les jouets de licence et trucs comme ça, parce que ça, c'est des...
C'est-à-dire qu'en Asie, on doit écouler les stocks et donc on vend moins cher.
Ouais, mais même les coûts de transport ont baissé. Ce qui n'empêche pas certains transporteurs de racheter de l'audiovisuel fort des marges qu'ils ont réalisées l'année dernière.
Ça arrive. Et,
ça va, c'est le bon ton pour midi. C'est...
Pas de problème. Faites référence au rachat par CMA CGM, donc, qui fait du transport maritime du groupe Altice Média. Voilà,
nous, Leclerc,
ceux qui regardent la télévision,
nous, Leclerc, Carrefour, on était obligés de faire payer très cher des consommateurs qui ont généré des profits dans les conteneurs et tout ça, et qui fait que vous allez changer de patron.
Alors ça, je vous laisse la responsabilité de ce genre de propos. C'est une blague. Question d'Olivier Beaumont sur l'inflation.
Ben oui, parce que vous nous donnez des garanties pour les 12 mois qui viennent, mais vous évoquez l'expression de 10 ans d'inflation structurelle. Concrètement, ça veut dire que inévitablement les prix vont structurellement continuer d'augmenter dans les années à venir.
Oui, ça, donc très clairement, je réponds à Amandine, on ne reviendra pas au prix d'avant. Très clairement, cette année, je pense que ça va calmer le jeu et Bruno Le Maire pourra faire un petit cierge à son saint préféré où il pourra écrire un roman sur l'histoire.
C'est qui son saint préféré? C'est Michel-Édouard Leclerc?
Oui, certainement.
Ah oui, ouais.
Je sais pas, peut-être Macron, mais je suis pas sûr. Non, je crois que... Et par contre, on rentre maintenant dans un cycle plus vertueux sur le plan de l'écologie, mais qui coûte plus cher à produire. La décarbonation... la relocalisation de l'approvisionnement, le fait qu'on ait perdu des marchés aussi en Russie, que les Chinois, c'est plus un marché à prendre, c'est un marché qui arrive pour les bagnoles, par exemple. Tout ça fait que ça va coûter. Les normes ont un coût, les coûts sont des prix, et donc il va y avoir une inflation plus structurelle, plus diffusée sur 10 ans, le temps d'amortir
ces
investissements.
Mais donc Michel-Édouard Leclerc...
Et ça, il va falloir... Pourquoi j'annonce ça? C'est parce que ça justifie aussi qu'on garde une politique de concurrence très offensive, qu'on reste, non pas protectionniste à prix cher, mais qu'on reste toujours très actif.
Pas une bonne nouvelle pour le portefeuille des consommateurs, parce que ça, c'est structurel, mais c'est hors crise exceptionnelle, hors contexte géopolitique, qui est plus que jamais instable encore en ce moment.
Oui, mais pour le coup, la crise dont on sort, elle n'avait pas été préparée, elle a même été niée. Enfin, je vous rappelle que quand je venais sur vos plateaux, j'avais l'air d'un peu d'être l'agité du bocal quand j'annonçais des inflations à 4% pour les présidentielles, à 7%, etc. Plus personne ne me conteste aujourd'hui le diagnostic. Mais à l'époque, tout ça était spéculatif et pas préparé. Même les industriels ne renégociaient pas leur approvisionnement. Donc maintenant qu'on sait, ça c'est derrière nous. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pour fabriquer des bagnoles, pour mettre du carburant plus propre dans les avions, pour isoler l'immobilier, tout ça, ça va coûter plus cher. Oui. Mais on le sait, donc on se met en posture de réarmement anti-inflation. Et je pense que c'est pour ça que je plaide pour qu'on maintienne une concurrence très vive, interprofessionnelle, et qu'on ne se replie pas
en
se protégeant.
Juste revenir sur ce qu'évoquait Amandine il y a un instant. Très concrètement, là, je pense à ceux qui nous regardent et qui se demandent non seulement quand est-ce que se verront dans les rayons les effets de cette inflation qui décélère, et les secteurs. Par exemple, si on prend l'alimentation, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent très concrètement quel type de produits vont voir leur prix baisser, ou au contraire, quel type de produits là, pour lesquels vous dites là-dessus, il ne faut pas s'attendre à des miracles?
Alors, tous les prix de grandes marques multinationales, les prix transformés, ceux qui sont en partie derrière vous, je ne sais pas si le téléspectateur voit la même image que nous.
La laitière, tout ce qui est produit laitier.
En fait, la partie agricole ne descendra pas parce qu'elle est protégée, mais tout ce qui est la marge des industriels, le marketing des industriels, ça va descendre parce que toutes les grandes marques ont perdu des volumes en prenant trop de marge l'année dernière. Et donc, dans les négociations commerciales qu'on a eues là, on n'a pas eu besoin de s'engueuler beaucoup parce que les grandes marques ont vraiment perdu du marché. Et donc, ils réétalonnent, ils réajustent leurs prix. Et donc,
donc, dans l'alimentaire ?
Dans l'alimentaire, je pense que ce sera beaucoup plus raisonnable. Alors après, il y a des trucs qui restent très chers. La viande, le poisson, ça reste très cher, mais pour des facteurs de rareté, des facteurs aussi de baisse de la consommation, hein, ça c'est clair. Mais d'une manière générale, vous voyez, quand on revient à une inflation à 2 à 3 % sur les produits de consommation courante, ça, on peut, en tant que consommateur, c'est toujours trop, il faut que les salaires suivent, mais en gros, on peut maîtriser.
Amandine.
C'est pas les pâtes à 40% ou la moutarde à 30%, quoi.
Et si on se projette sur cet été, il y a aussi les vacances, puisque vous êtes par ailleurs voyagiste, et les premiers chiffres montrent que les prix du logement et du transport augmentent. Est-ce que vous nous confirmez que les Français, a priori, doivent s'attendre à payer leurs vacances d'été plus cher?
Je crois pas trop, non, parce que après 3 ans de Covid, enfin 3 ans de marasme post-Covid et Covid, toutes les destinations touristiques font des gros efforts, les tours opérateurs font des gros efforts. Nous sommes le premier ou le deuxième voyagiste français. Enfin, on vend des produits de voyage, dégriffés ou...
Et donc, vous ne constatez pas cette hausse de prix?
Il y a un engouement considérable. Alors, c'est plus la préoccupation écologique qui s'imprègne, c'est-à-dire oui. qu'on part moins très loin pour rester juste sur une plage, donc il y a plus de culturel, il y a plus de local, il y a beaucoup de location à la montagne, par exemple,
mais
pendant l'été.
Un rattrapage post-Covid, par exemple, sur les prix des billets d'avion. Parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est quand même plus cher de fait.
Oui, mais pour tout ce qui est voyage, il y a quand même un effet, comme tout est plein, en fait, je veux vous dire, c'est pas si cher que ça, quoi. Ouais. Non, il faut remettre la machine en route, quoi.
Sur la question des négociations avec les industriels, là encore, vous étiez venu sur ce plateau, c'était le 10 décembre, et vous évoquiez à ce moment-là des négociations tendues, musclées, oui. avec un certain nombre de grands groupes industriels, pour les citer par exemple Coca.
Oui.
Qui a gagné alors entre eux et vous? Je rappelle, pour ceux qui nous regardent, que ces négociations, elles sont terminées.
Ouais. Non, mais ils ont perdu l'année dernière beaucoup de volume. Donc ouais. aujourd'hui, je ne peux pas dire qui a gagné, qui a perdu. Ils ont fait des efforts réels. Pour ne pas augmenter...
Ça, c'est une façon de dire que vous avez gagné sans le...
Il faut être élégant dans la vie.
Voilà. Surtout mais c'est, physique, je traduis, quoi. C'est ouais. pour ça.
Non, en plus, on n'a aucun intérêt à se... Moi, j'avais tellement peur qu'il y ait une récession après 21% de hausse sur l'alimentaire, alors que l'économie française est tirée par la consommation et la consommation alimentaire. J'avais très peur d'une récession là, maintenant. En fait, les grandes multinationales aujourd'hui, on réagit parce que ce qui s'est passé en France, c'est aussi passé en Allemagne, en Italie et autres. Et donc, je pense que on a intérêt à avoir les grandes marques. Alors c'est vrai que l'année dernière, les marques de distributeurs ont fait un carton, mais on avait un écart de 25 à 30% avec les grandes marques. Quoi. C'était...
Donc le bilan est pour du côté des distributeurs plutôt positif.
Les distributeurs ont mieux acheté. Les distributeurs ont mieux acheté. Et en tout cas pour mon enseigne, j'essaie de citer les autres en même temps, mais pour mon enseigne, qui avons été la seule à augmenter en volume l'année dernière, je pense que l'année 2024, avec la politique de prix qu'on va avoir, on va donner de la croissance, on va donner du débouché à notre agroalimentaire.
Question d'Olivier.
Oui, alors une évolution législative qui n'est pas passée inaperçue du côté des consommateurs. Elle est entrée en vigueur il y a 3 semaines, la fameuse loi d'Escrozaille que vous aviez vivement combattue. Elle est entrée en vigueur, elle interdit, je le rappelle, les promos, les super promos, même sur les produits d'hygiène, la lessive, les couches. Est-ce que vous en voyez déjà les effets dans vos magasins?
Oui, mais ce sont des législations que je ne comprends pas. Alors vous voyez, les agriculteurs parlent d'un surcroît de normes, d'un manque de pédagogie, on y reviendra. Là, on nous impose ça, après 3 années difficiles pour le pouvoir d'achat, avec 1 million de pauvres, recensés par les Restos du Cœur en plus, avec des difficultés dans les foyers. On vient de nous augmenter le prix du Tampax, le prix des couches. C'est des budgets énormes pour des jeunes foyers, tout ça.
Et vous avez un moyen de compenser, par exemple ?
Il n'y a pas de logique. C'est la limitation des promotions. Alors, c'est vrai que c'est les industriels qui payent ces promotions. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas négocier leur prix et qu'on ne pouvait négocier que leur promotion. Et maintenant, on nous limite les promotions.
Mais est-ce que vous avez un moyen de compenser, par exemple, sur vos marques distributeurs en disant, comme on n'a plus le droit de faire ces méga-promos, on essaye de baisser les prix au maximum sur les marques Leclerc
Oui, c'est comme ça que le succès de nos marques comme Eco Plus ou marques Repair. Mais c'est pas... Revenons au sujet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi? Ça sert les intérêts de qui? C'est pas les paysans français qui produisent des couches ou du détergent. Donc, ce sont des multinationales. En général, c'est Procter, c'est Unilever, c'est des gens qui font Soupline, Allways, Gillette, Pantene.
Concrètement, dans vos magasins, ça s'est traduit par quel réflexe consommateur?
Une chute des. Alors, pour le moment, les gens d'abord les consommateurs ont stocké.
Voilà.
Tout le monde l'a remarqué. Circana, Kantar, tous les panélistes ont constaté ça. Et puis, pour nous, le sujet, il faut comprendre que si j'y mets de l'énergie, c'est parce que ça se passe dans nos magasins, ça se passe chez Leclerc, Intermarché, Carrefour. Nous, on n'a aucun chef de rayon, aucun caissier, aucune caissière qui est capable d'expliquer pourquoi ça. Ça n'a pas de logique. Donc, il faudrait que vous demandiez aux députés qui ont voté ça et qui ne sont pas que les députés de la majorité. Pourquoi ils votent ça?
Avec
dans
d'ailleurs
l'intérêt
une
de qui?
Avec d'ailleurs une situation singulière, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était favorable à ce qu'il y ait un moratoire, mais la majorité ne l'a pas suivi sur ce sujet.
Bruno Le Maire, dans cette histoire, était notre allié. Et en fait, il n'a pas été suivi. Donc, je répète, dans l'intérêt de qui? On parle de lobby, on parle de... Moi ça me laisse... Il y a une autre disposition législative qu'on applique depuis 4 ans. On nous oblige à prendre 10% de marge minimum sur des produits agroalimentaires transformés. Ce n'est pas les produits agricoles. On pourrait très bien dire qu'il ne faut pas écraser les prix, ça donne une image trop basse du prix. Non, c'est les produits de Nestlé, c'est les produits, c'est le jus d'orange, Joker. On nous oblige à prendre 10% de marge. Alors, on nous limite sur les promos, sur les détergents, sur les produits de santé et d'hygiène, et on nous oblige à prendre des marges sur l'agroalimentaire. Cherchez l'erreur, on marche sur la tête.
Comme disaient les agriculteurs, on y reviendra dans un instant. Un mot encore sur les risques inflationnistes liés à la situation géopolitique. En Ukraine, le Premier ministre Gabriel Attal a pointé le risque d'une, je cite, « inflation alimentaire puissance 10 en cas de victoire de la Russie ». Est-ce que vous, de la connaissance du secteur, vous êtes d'accord avec lui ?
Alors, d'abord, j'ai découvert hier ou avant-hier, peut-être comme vous aussi, qu'on a taxé au niveau européen les importations agricoles russes.
Oui.
Moi, je pensais qu'il n'y en avait plus dans le cadre des sanctions. Donc, c'était une découverte pour moi. Je n'ai pas eu le temps d'analyser ça. Mais je suis venu ici sur les plateaux. C'était face peut-être à vous et en tout cas à Pauline de Malherbe pour expliquer que je devais déjà remballer tout mon gasoil russe et qu'on n'avait pas le droit, au titre des sanctions, de continuer à vendre du gasoil. Il y avait 25% de gasoil français qui venait par barge depuis les raffineries russes de la Baltique. Donc, on l'a fait. Là, je découvre que... En fait, on continuait, des institutions, des organismes économiques continuaient à importer des céréales russes.
Mais est-ce que le gouvernement a raison de dramatiser la situation en disant « si l'Ukraine s'effondre, si la Russie gagne, ce sera une catastrophe pour le consommateur »
Oui, certainement, mais c'est d'abord une catastrophe politique. Mais je sais pas traduire...
Et qui concernerait plutôt quel type de produit ? Céréales, notamment ?
Enfin, franchement, ce sera plus l'histoire du panier de la ménagère là qu'on va analyser. S'il y a un conflit de ce type qui est généralisé, on est au bunker là. C'est plus l'histoire du petit pois là.
Vous êtes inquiet, juste ?
Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et je sais pas commenter ça comme ça.
Un tout petit mot avant de faire une courte pause. On dit souvent que les magasins Leclerc, les hyper Leclerc, c'est une sorte de baromètre de la société.
Oui.
Sur la question de la consommation, aussi sur l'état d'esprit des consommateurs, les éventuels changements dans leurs habitudes. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ?
De l'anxiété, une énorme anxiété. C'est-à-dire que les arbitrages de consommation se font très en amont de la visite en magasin, ils regardent sur Internet. Alors, on a la chance, on a des drives, donc Carrefour aussi, et tout ça. Donc, on peut regarder sur le drive le prix qui sera en hyper. Vous vous rappelez que normalement, la législation aussi sur l'environnement nous amène à supprimer les tickets de caisse. En fait, on ne les a pas supprimés parce que c'est très important psychologiquement que beaucoup de foyers gardent les tickets. Beaucoup de gens font des courses pour les autres aussi. Et donc, on sent une anxiété à la fois sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi. Et tout est anxiogène dans la société française. Et nous sommes l'observatoire de ça. Et on met beaucoup plus de temps à faire les courses. Et surtout, c'est beaucoup plus choisi, c'est sculpté. D'où le succès des marques de distributeurs aujourd'hui, par exemple, alors qu'elles n'avaient pas, elles ont pris une progression énorme, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans.
Et on continue cette discussion. On abordera notamment les suites de la crise agricole. À tout de suite dans BFM Politique, l'invité Michel Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, invité de BFM Politique. Michel-Édouard Leclerc, avant de continuer notre interview, une question d'un téléspectateur. Voilà ce que vous demande Thierry. Les Jeux Olympiques arrivent dans 6 mois. Vous attendez-vous à des chiffres records de la consommation ?
Alors, sur la région parisienne, non. Cause d'embouteillage, d'organisation des JO.
Ouais.
Mais oui, belle image pour la France, fierté, donc baisse de l'anxiété général, oui, je pense que...
Vous êtes plutôt enthousiaste à l'idée de ces Jeux Olympiques.
Oui, je trouve ça très bien. On en parle avec beaucoup, tout le temps, des problèmes de sécurité, d'organisation et tout, mais pour la France, c'est une image, c'est une carte postale extraordinaire.
Il y a des choses qui sont prévues dans les magasins Leclerc ?
C'est Carrefour qui est
sponsorisé. Oui, je sais, mais bon, il faut être œcuménique.
Mon copain Teddy Reiner, il est sponsorisé par Carrefour, ce qui fait que je n'aurai jamais une histoire d'argent entre lui et moi.
Un mot sur la cérémonie d'ouverture. On a beaucoup parlé de la possibilité que Aya Nakamura, la chanteuse, chante à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Elle a fait l'objet d'attaques racistes. Elle a d'ailleurs, il y a une plainte qui est en cours de qui a été examiné. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ça qu'Aya Nakamura chante à la cérémonie d'ouverture?
Oui, ouais, ouais, c'est en plus c'est une très bonne chanteuse.
Ouais. Vous écoutez Aya Nakamura?
Oui. Ouais. Ouais, ouais, mais bon, je vous ai parlé en privé tout à l'heure de mes petits enfants, mais j'ai des enfants aussi. Oui, oui, à la maison c'est. Et puis j'ai une famille très cosmopolite. Sans m'étendre, je pense qu'on fait le tour du monde.
Et vous êtes choqué par le traitement qu'elle a subi?
En fait, j'ai pas compris. Ouais, pourquoi elle est ciblée comme ça? En tout cas, maintenant, on sait que c'est elle qui va chanter, quoi.
Vous y voyez un fond de racisme dans tout ça?
Ouais, ouais, bien sûr. Mais on est une société. Quand on est dans l'anxiété, tous les mauvais sentiments, la barbarie aussi, la haine. Oui. Il y avait un très beau texte dans Libé. J'ai plus le nom de l'écrivaine. Elle était au prix Landerneau. Hier, il y avait un très beau texte dans Libé d'une écrivaine qui disait tout le ressenti qu'on a chacun et qui tout d'un coup explose comme ça quand la société est permissive. Ouais.
Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez. Lafond, que vous pouvez continuer à interpeller directement Michel Édouard Leclerc en scannant ce QR code. Question d'Amandine sur les suites de la crise agricole.
Oui, puisque la loi de programmation agricole que le gouvernement a vantée arrive vendredi en Conseil des ministres. Est-ce que vous pensez que la grande distribution a quelque chose à y gagner ou plutôt à y perdre?
Alors, d'abord, comme sur RMC, sur BFM, on me l'a fait beaucoup remarquer. C'est vrai que je me suis pas mis au milieu de la cible quand entre FNSEA, coordination rurale, confédération paysanne, le gouvernement a été interpellé.
C'est-à-dire que vous avez quasiment disparu pendant 3 semaines.
Ah ouais, ouais. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mes confrères aussi.
C'est-à-dire Thierry. Sauf Michel Biérot.
Michel Biérot, mais autrement Thierry Cotillard. On a tous essayé un petit peu, mais puisque je sais que vous pratiquez la boxe, ou vous allez découvrir la boxe. Moi, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant très longtemps, et notamment l'aïkido. Le principe, quand vous vous retrouvez entre deux tireurs qui se tirent l'un et l'autre, en fait, il faut pratiquer l'évitement. L'évitement, c'est un art de la guerre. Et ninja, si vous préférez. Voilà.
Et donc maintenant que vous êtes de retour.
Maintenant, le ministre de l'Agriculture va venir répondre aux attentes des agriculteurs, ce qui est quand même dans la normalité des choses. C'est pas Leclerc et Carrefour qui font la discussion sur le Mercosur ou le traité CETA. Mmh. C'est pas Leclerc et Carrefour qui vont déterminer le montant des retraites des agriculteurs. Les histoires du plan phytosanitaire, moi je suis un littéraire, je suis absolument pas compétent sur le plan des pesticides. C'est quand même pas les distributeurs qui doivent s'en mêler, et c'est pas non plus les distributeurs qui peuvent
Michel
répondre.
Quand je vous écoute là, vous avez le sentiment d'avoir été victime d'une forme d'injustice pendant cette séquence, parce que quand on voit ce qui s'est passé devant certains magasins, quand on entend les discours de représentants agricoles, même d'agriculteurs pas spécialement affiliés à des syndicats, tout ça c'est tombé du ciel. Vous avez aucune responsabilité dans ce qui s'est passé?
Non. D'abord, on nous les a envoyés. Enfin, attendez, c'est que quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit que s'il y a que des dégâts matériels, on ne fait pas intervenir la gendarmerie. Quand vous avez les gendarmes qui sont là et qui ne relèvent pas les infractions, et que les préfets convoquent en disant « Est-ce que vous pouvez laisser partir 10 caddies, 15 caddies, 7 caddies, etc. ?» On est quand même dans une théâtralisation dont on n'a pas envie de rester longtemps là-dedans. Donc, en fait, la réalité, c'est que nous, distributeurs, et nos salariés qui sont aussi du monde rural et qui sont aussi enfants d'agriculteurs, on partage une partie des revendications agricoles. D'ailleurs, tous les gens de métier aujourd'hui ont des choses à dire sur cette espèce d'injonction permanente qui vient de Paris ou de l'Europe pour dire ce qu'il faut faire. On n'est jamais consulté. On a une prolifération des normes. On a une prolifération des normes énorme. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on comprend, on a compris au départ la colère. En fait, on la voyait venir.
Quelle part de responsabilité vous prenez dans ce qui s'est passé?
On a une part de responsabilité, comme tous les acteurs de la filière, mais sur tous les sujets que je viens d'évoquer et sur les 40 points que M. Rousseau de la FNSEA demande au gouvernement, on répond à deux attentes, vous voyez. Donc une qui est de respecter, de sanctuariser le prix de la matière agricole à partir duquel se fait le revenu des agriculteurs. Mmh. Et donc je ne conteste pas ça, c'est pas la peine de me mettre dans les pattes que je suis anti-égalim et tout ça. Mmh. Et la deuxième chose, c'est la nécessité de mettre de la transparence, puisque moi j'achète pas à la ferme, j'achète pas le lait à la ferme, nous achetons à des industriels, à Danone, à Lactalis. Et si je ne sais pas, Benjamin, le prix qu'a acheté Danone le prix du lait
auprès du producteur de lait, ça vous demandait de la transparence. Mais simplement, et d'ailleurs, ça nous renvoie tous à nos contradictions et peut-être aussi aux contradictions des téléspectateurs. On a passé la première partie de cette interview sur la question de l'inflation et vous nous avez dit, on va continuer à essayer de faire en sorte que les prix soient les plus bas possibles. Est-ce que, là encore, il n'y a pas une forme de contradiction avec tout ce qu'on a entendu pendant la crise agricole où on a dit, bah, peut-être qu'il faut assumer de payer un peu plus cher des produits d'alimentation pour respecter le fruit du travail des agriculteurs. Est-ce que, par exemple, le coût de la baguette à 29 centimes, le coût de la côte de porc à moins de 2 euros le kilo, il ne faut pas dire ça, c'est de l'histoire ancienne parce que ça ne permet pas de rémunérer justement les agriculteurs.
Eh bien, ce n'est pas de l'histoire ancienne parce que le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté. Mais ce que vous venez de dire, c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on ne pouvait pas dire pendant la période de colère agricole. On ne peut pas... Nous étions dans la même période en train de négocier des baisses de prix à la demande de tous les consommateurs, à la demande de Bruno Le Maire. On était en train d'essayer de casser l'inflation. Mmh. Et en même temps, vous avez des agriculteurs qui viennent demander des rémunérations et qui viennent demander des hausses de prix. Simplement, on ne parle pas de la même chose, mais ce n'est pas audible. Donc, ce n'est pas la peine de s'y mettre. En fait, je vous le dis aujourd'hui, ce que nous avons négocié, c'est avec des multinationales dont la part de produits français ou de la part de produits agricoles français est...
Bah, la côte de porc à moins de 2 euros le kilo, ce n'est pas avec des multinationales.
Ça, c'est un exemple que vous objectez à un discours général. On apprend ça chez les GES, il faut cadrer les sujets. Ouais. Aujourd'hui, quand je vais négocier du chocolat avec Nestlé ou avec Mars, ça ne touche pas l'agriculteur français. Quand je vais négocier du jus d'orange, quand je vais négocier des produits détergents, etc., vous voyez, bon, l'essentiel de l'inflation était là. Elle était là, OK ? Par contre, le revenu agricole, je pense qu'on peut augmenter le revenu des agriculteurs au niveau de la production, sans impacter considérablement le consommateur. En tout cas, je prends l'engagement, tout en baissant les prix, de ne pas altérer cette possible augmentation des revenus des agriculteurs.
Mais est-ce que,
deux choses différentes.
Est-ce qu'à la suite de cette crise agricole, pardon d'y revenir, est-ce qu'il y a une forme de changement de doctrine à avoir ou est-ce que vous dites non, on continue exactement comme ce qu'on faisait avant ?
Alors, pas exactement, puisqu'on va rentrer dans une économie plus décarbonée.
Par rapport à ce qu'on entendait pendant la crise agricole.
Alors, je vais vous dire ce que je fais, moi. C'est plus simple. D'abord, préférence française, d'accord ? Donc, je pense qu'il faut... je suis d'accord avec Olivia Grégoire, la ministre de la Consommation, il faut regarder où on achète les choses et ne pas ouvrir la France à n'importe quel produit qui ne respecte pas les normes.
Donc, ça veut dire que vous êtes favorable à la mise en place de ce nouvel indicateur Origine Info sur le modèle du Nutri-Score pour savoir d'où viennent
déjà,
les ingrédients des produits.
Déjà, la transparence.
Donc, vous y êtes favorable.
Oui. Après, dans la forme, quelle étiquette, quelle couleur, et tout ça, je suis pas compétent, mais l'idée...
Il faut que ça apparaisse clairement sur les produits.
Il faut que ça apparaisse clairement. Ouais. La deuxième chose, moi je suis patriote, les centres Leclerc, les Intermarchés, les Systèmes U, on est dans des terroirs, on vit avec des gens, on prend les mêmes TGV, nos enfants vont dans les mêmes écoles, donc préférence française. La troisième chose, c'est que, par contre, les gros, ils ont pas à se planquer derrière les petits. C'est-à-dire qu'il y a... des boîtes comme Nestlé, comme Mondelez, Unilever. Moi, je ne sais pas s'ils achètent français. Et donc, quand ils viennent me dire, pour préserver le revenu des agriculteurs français, je vous oblige d'augmenter le prix, on a vu ça, des pâtes de 36%. Bah, tiens, j'en sais rien, prouve-le-moi. Et la loi autorise qu'il ne soit pas transparent. Donc ça, ce n'est pas bien.
Et Michel-Edouard Leclerc, pour préserver justement ce revenu agricole, Emmanuel Macron, à la surprise générale, a annoncé finalement des prix planchers.
C'est un peu ce que... Tout le monde le critique, mais c'est quand même un peu ce que tout le monde demande dans l'agriculture. Faut savoir qu'il y a pas, une agriculture. Il y a une agriculture qui s'exporte, il y a un agro-business qui fait d'ailleurs des devises pour la France et qui fait qu'on exporte bien. Et puis il y a une agriculture plus familiale qui fait la vie de nos terroirs, qui font nos alliances locales, qui font les produits près de chez nous. Et cela, alors autant les premiers, ils ont besoin d'être boostés, autant les deuxièmes ont besoin d'être protégés. Et donc, ma responsabilité, c'est de ne pas trop négocier les prix de l'économie locale, mais par contre, de faire en sorte que les grandes multinationales ne viennent pas taper les Français 5% plus cher qu'en Allemagne. Vous voyez, c'est ça le truc.
Mais donc, ça va les aider. C'est une bonne idée, finalement, si je comprends bien.
Qu'est-ce qui va les aider ?
Les prix planchers, les agriculteurs. Vous ne remettez pas ça en cause ?
Non. Non. Mais bon, la formulation, juridiquement, elle est pas valable. C'est juste ça. Mais tout le monde a critiqué Emmanuel Macron pour avoir dit ça. Oui. Mais en fait, quand l'agriculteur dit « je veux couvrir mes coûts de production, mes coûts d'énergie et tout », c'est quand même un peu ce qu'il demande.
Juste avant, une question d'Olivier Beaumont sur le CETA. Francis, un téléspectateur, vous interpelle. Pourquoi n'êtes-vous jamais présent au Salon de l'agriculture, contrairement à l'enseigne Lidl ?
Alors, d'abord, je l'ai été pendant toute ma vie. Oui. Bon, juste une petite parenthèse privée. J'ai été mari d'agricultrice pendant 20 ans, d'accord ? Donc, je ne suis pas le mec qui ne connaît pas ces sujets. Et donc, j'allais au Salon de l'agriculture tous les ans.
Vous savez, Michel Leclerc, on a été au Salon, notamment avec Amandine, le jour de la visite du président de la République. On parle de Leclerc, ils ne réagissent pas bien, les agriculteurs.
Vous allez avec les people, excusez-moi.
Non, je n'étais pas avec les people. Alors, je peux vous dire, on était avec les agriculteurs, on discutait avec toute une série de filières. Et c'est vrai que quand on prononce le mot Leclerc, il n'y a pas des bonnes réactions.
Mais ça dépend si ce sont nos fournisseurs ou pas nos fournisseurs. Ce n'est pas nos fournisseurs qui viennent manifester chez nous. Enfin, vous voyez, de la même manière que vous avez très peu vu, alors que ce sont les industriels qui achètent à la ferme, vous avez très peu vu, à part Lactalis, des agriculteurs aller taper les industriels.
Et qu'est-ce qu'il y a des conséquences, juste pour finir sur ce sujet, dans vos magasins ? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des clients qui se sont détournés
Non, mais même...
Vous n'avez pas vu de conséquences sur le fait que le nom Leclerc ait été jeté en pâture ?
Leclerc a fait le plus fort taux de progression de chiffre d'affaires en France pendant toute cette période. Et nous sommes devenus, nous, les anciens ploucs de province et de Landerneau, on est devenus numéro un de la distribution française.
Et alors pourquoi
on ne doit pas avoir tout mauvais.
Et alors pourquoi vous n'êtes pas au salon, contrairement à Lidl ?
C'est parce que c'est une période où il faut être partout. Donc
Non, mais c'est vrai, ça fait partie des c'est des éléments importants. Vous dites que vous avez des bonnes relations avec les producteurs. Pourquoi ne pas avoir un stand au salon comme le fait Lidl ?
Bon, d'abord, d'un point de vue professionnel, mais en général, c'est la même année où on négocie les prix. Donc, ce n'est pas forcément au salon que ça se passe. Vous comprenez ? Moi, j'adore aller au salon. Je vais dans les foires agricoles, je n'ai pas de problème. Quoi.
C'est pas que vous avez peur d'être mal accueilli ?
Mais est-ce que je suis mal accueilli quelque part ?
Ah au Salon de l'agriculture, on ne sait pas puisque vous n'y êtes pas allé.
Celui-là ?
Oui.
Ouais. Non, c'est Macron qui a été mal accueilli.
Rendez-vous l'an prochain.
Ça, c'est sûr. Donc, peut-être l'an prochain.
Peut-être.
Question d'Olivier Beaumont sur le CETA.
Oui, c'est aussi une des conséquences de cette crise agricole. Ce sont ces traités de libre-échange qui font débat en ce moment. Jeudi dernier, le Sénat, majoritairement à droite, il faut le rappeler, a rejeté la ratification du traité CETA, un traité d'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Vous dites que c'est une mauvaise manière faite aux viticulteurs, aux fromagers, ou au contraire, vous comprenez l'opposition à ce traité ?
Non, c'est de la politique, là.
Pure politique, d'accord.
Quand vous voyez LR s'allier avec les communistes contre le CETA.
Ils ont voulu faire le gouvernement sur le dos d'un traité commercial.
Aujourd'hui, tout le monde a les pétoches de la montée des droites en Europe. C'est vrai que cette discussion sur les traités internationaux témoigne d'un mépris démocratique entre ceux qui négocient les traités et ceux qui en sont les impactés, c'est évident.
L'argument de l'exécutif, c'est de dire que les viticulteurs, les fromagers notamment, sont les grands gagnants de cet accord commercial.
Oui, mais il n'y a pas une agriculture. Et donc, le problème... Alors, j'ai pas de réponse à votre question, mais je me pose les mêmes questions. C'est-à-dire que dans les chambres d'agriculture, si vous faites chatgpt.4, vous allez voir, on vous dit qu'il y a 8000... collaborateurs ou salariés dans les chambres d'agriculture, dont 6 000 ingénieurs et techniciens. Quand vous regardez, vous demandez qui négocie les accords internationaux à Bruxelles, il va vous répondre, il y a aussi des centaines de syndicats, de fédérations qui sont organisés et qui accompagnent les administrations pour négocier les traités internationaux. Donc moi, je ne sais pas jusqu'où il y a une réalité que ces traités ont été négociés sans tenir compte des avis des agriculteurs. J'en sais rien. Vous devriez enquêter là-dessus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, a priori, l'accord du CETA, il est bénéfique aux agriculteurs. Oui.
Donc la décision du Sénat, elle va contre les intérêts
Oui, mais ils ont les pétoches politiquement parce que les forces montantes dénoncent les accords internationaux, sont protectionnistes, c'est de la politique. C'est de la politique.
Et on va parler politique dans un instant. Je voudrais juste, avant cela, qu'on aborde un autre secteur où Leclerc est présent. Peut-être que certains qui nous regardent ne le savent pas, même si souvent ils vont acheter notamment leurs livres dans les centres Leclerc. Il y a des opérations prévues dans le monde de la culture, dans les semaines et dans les mois à venir, notamment une exposition au centre Georges Pompidou.
Il est très bon, exception culturelle, exception agricole.
La transition est toute trouvée.
Ouais, c'est vrai que on focalise beaucoup sur l'alimentaire dans les dépenses des ménages, mais aujourd'hui, par exemple, Rachida Dati est en train de reposer la question du pass culture pour les jeunes et tout ça. Et donc nous sommes troisième libraire de France. Leclerc. Et donc, bien sûr, à travers des espaces culturels, on fait un très gros chiffre d'affaires, on soutient le secteur livre. On n'a pas de problème de négociation avec les éditeurs, alors même que l'augmentation du prix du papier de 40%, vous voyez, ça peut bien se passer. Mais surtout, on va avoir un printemps où Leclerc va investir énormément sur la culture, puisque à la fois, on va ouvrir des espaces culturels, à la fois, il va y avoir 100 lieux en France avec un festival qui va s'appeler Culturissimo, avec tous les comédiens de la comédie française, du cinéma français, mais aussi des grands auteurs qui vont venir dans les salles municipales en province. C'est la culture en province, c'est la culture partout où il faut. Et puis surtout, nous allons être, à travers notre fondation, partenaire de la plus grande... Alors ça, c'est, je prends mon pied. On va être partenaire de la plus grande exposition du monde de la bande dessinée au Centre Pompidou. Avant que le Centre Pompidou ne ferme, et avant les Jeux Olympiques, il va y avoir la plus grande exposition de bande dessinée, la BD à tous les étages, et toutes les formes de BD et tous les genres. Et ça va être un grand moment festif dont on va essayer de faire profiter, évidemment, tous les touristes qui viendront à Paris, mais aussi tous les provinciaux qui vont monter à Paris.
Vous l'avez déjà rencontré, Rachida Dati ? C'est une bonne interlocutrice ?
Oui, je la connais, c'est une bonne interlocutrice, elle est vivace.
C'est-à-dire ? Dans la négociation, dans la discussion,
oui,
c'est âpre ?
Non, c'est tonique, c'est méditerranéen.
Question d'Amandine Atalaya sur un sujet qui est au cœur du débat politique en ce moment.
La gestion des comptes publics de la part de l'État et du gouvernement, parce qu'on dit souvent que le gouvernement devrait gérer en bon père de famille ou bien davantage comme un chef d'entreprise. Donc je voudrais votre avis sur le fait que le gouvernement aujourd'hui soit en difficulté avec un déficit public qui s'accroît et beaucoup de milliards d'économies, 20 milliards d'euros d'économies à trouver en 2025. Est-ce que vous, chef d'entreprise, vous avez des idées à suggérer au gouvernement pour qu'il y parvienne ?
Non, mais moi, je ne rentre pas dans la critique excessive ou dans du déficit public. Je suis assez d'accord avec Moscovici, qui est le président de la Cour des comptes. Il y a beaucoup d'économies à faire, il y a beaucoup de gabegies dans les comptes de l'État, enfin, c'est un thème récurrent. Mais d'une manière générale, un comptable n'a pas forcément la vision de l'investissement et du développement réalisé. Oui. Or, depuis 3-4 ans, on a vu les plans d'investissement considérables qui vont permettre à l'économie française de devenir l'équivalent d'un produit pétrolier. Si on va jusqu'au bout de notre programme nucléaire, on va avoir beaucoup de revenus à la fin en produisant notre propre électricité.
Et est-ce que, par exemple, Michel,
n'ayant pas à l'acheter.
Et donc, vous dites que c'est pour la bonne cause, c'est de l'argent investi à bon escient.
C'est-à-dire qu'il faut comparer la dette, aux actifs prévisibles et à la productivité de ces actifs. Alors, je ne sais pas au détail près, je suis pas dans la compte. Ça remonte trop loin, mais mes études, mon doctorat de sciences éco à Paris 1.
Un exemple très précis, par exemple, Michel Leclerc. On entend dans la majorité de plus en plus, en tout cas quelques voix dissonantes, disant il faut assumer, ou en tout cas il faut briser le tabou de la possibilité d'augmenter les impôts. On entend parfois certains millionnaires, milliardaires, même aux États-Unis, dire allez-y, taxez-moi davantage. Est-ce que vous diriez à l'État, taxez-moi plus en tant qu'individu, et éventuellement Leclerc, les centres Leclerc sont prêts à contribuer davantage à l'effort national?
D'abord, comme mettre de l'argent chez des gens dont je ne sais pas comment ils gèrent, c'est pas mon truc. Non, je pense que d'abord la question de la fiscalité se reposera du point de vue de la pauvreté, de la gestion des inégalités. Il faut appuyer tout ça. Mais du point de vue de la relance et du point de vue de la capacité française à subvenir à ses besoins pour tous ces nouveaux investissements, je pense que l'endettement, c'est une bonne chose.
Mais le fait de faire contribuer davantage les plus aisés, est-ce que c'est une bonne idée ?
Contribuer à quoi ?
Moi, je suis contre... À l'effort national, au redressement des finances publiques.
Non, mais si vous avez besoin d'un coup de main à BFM, je veux bien regarder au titre du mécénat.
Là, c'est la question de la fiscalité sur les plus riches et sur les entreprises qui réussissent.
Non, à partir du moment où la question, c'est qu'on dépense trop et que c'est mal géré, on s'attaque à la bonne gestion, et après, éventuellement, on fait appel à des fonds privés, parafiscaux, fiscaux.
Donc, plutôt d'abord, non. Et taxer les super profits des entreprises ?
Non, mais c'est vous qui tournez autour de ça. La réalité, c'est pour un plan d'investissement qu'il faut définir, il y a besoin d'argent. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que la dette, c'est la meilleure ressource.
On ne vous sent pas très enthousiaste sur la possibilité d'augmenter les impôts des plus riches ou des grandes entreprises.
Non, mais j'y crois pas aux impôts des milliardaires et tout ça. Quand vous êtes dans un monde libre où chacun peut aller, enfin, je veux dire, même en Europe,
ils se disent. Ah, donc voilà, non, mais ça mérite de la clarté. Vous dites, si jamais on augmente ces impôts, ils vont partir à l'étranger. Où les entreprises, les grandes entreprises vont quoi, se délocaliser.
Mais je ne crois même pas au discours et à la sincérité de ce discours. Quand vous avez dans l'Europe, Luxembourg et l'Irlande, vous commencez.
Donc c'est plutôt opposé.
Non, mais ce qui est important, c'est que c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on a un plan d'investissement pour l'économie décarbonée, pour l'économie de demain, l'économie vertueuse, écologique.
Michel Leclerc.
Et quelle est sa meilleure ressource? Je considère que la dette, aujourd'hui, est une bonne ressource.
Une dernière question. Dans quelques mois, les Français voteront le 9 juin à l'occasion des élections européennes. Est-ce que vous voyez une liste qui, aujourd'hui, porte des idées qui vous paraissent pertinentes pour le projet européen?
Non, alors je découvre les nouveaux candidats, je ne les connaissais pas. Oui. Je les découvre un par un en écoutant BFM. J'essaye de me faire des profils. Et donc, je ne les connais pas encore et j'ai du mal encore à cerner.
Mais est-ce que parfois vous mesurez, vous dites par exemple une victoire de Marine Le Pen, qu'est-ce que ça pourrait avoir un impact?
Non, ça c'est des questions qu'on pose sur les plateaux. Mais,
et vous répondez jamais?
Si, j'ai déjà répondu 10 fois.
Ah bon, mais ça, donc la victoire de Marine Le Pen, ce serait un danger pour la France ou pas?
Et les enfants, là, vous n'allez jamais plus loin que la page 1 de Google. J'ai répondu à tout ça.
Alors allez-y, donc une victoire de Marine Le Pen, est-ce que ce serait un danger pour la
politique,
France?
C'est l'art de la répétition.
On est dimanche midi, je vais vous dire. Moi, là, je sors d'une période agricole, avant une période de négociation commerciale. Je passe mon dimanche à Paris, au lieu de passer en Bretagne, où je prépare une exposition Henri Cartier-Bresson à Landerneau pour le mois de juin.
Vous ne répondez pas à la question qui vous est posée.
C'est en cela que vous ne cessez de dire que vous ne voulez pas faire de politique, mais vous savez parfaitement répondre comme un politique et de ne pas répondre à la question. Est-ce que l'élection de Marine Le Pen serait un danger pour la France en 2027?
Trois générations de Duhamel m'ont sculpté, donc j'apprends à sauter à travers les questions.
Il y aura encore combien de générations de Leclerc qui ne répondront pas aux questions? On le verra. Merci beaucoup Michel Leclerc d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci Amandine, merci Olivier. Tout de suite, vous retrouvez Affaires suivantes avec Dominique Rizet et Philippe Godin. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour C'est pas tous les jours dimanche et le premier grand débat de notre série autour des européennes. Sébastien Chenu contre Manuel Bompard. Vive la politique, à ce soir.